Alors là, vous voyez déjà, quand on parlait de clairvoyance, de perception extrasensorielle, on voit qu'il y a plusieurs choses qui sont à distinguer. La clairvoyance, c'est quand on obtient de l'information sensorielle sans être en contact direct avec la source de l'information. Soit parce qu'elle est loin de nous, peut-être un objet ou un lieu qui se trouve loin, ou une personne, soit parce qu'elle nous est cachée. Souvenez-vous, les expériences de Rheim, c'est ça. Voilà. Il y a des cartes, mais elles sont cachées. Donc, on n'a pas un accès sensoriel. On ne peut pas voir, on ne peut pas entendre. Voilà, vous connaissez les cinq sens. En dehors de ces cinq sens, l'être humain, nous dit-on, n'a pas d'accès à de l'information. Il y a une autre manière de cacher l'objet d'une perception. Ce n'est pas de la cacher dans l'espace, c'est de la cacher dans le temps. Et pour ça, eh ben, nous, on est dans le présent. Et si on met les choses à voir, à percevoir dans le futur, elles nous sont cachées parce qu'on a cette barrière du présent. Hein, le futur, il n'est pas là. On ne peut pas savoir. Sauf que justement, la précognition nous dit que si, dans une certaine mesure, on peut. Alors, d'une certaine façon, là, tel que je l'ai dessiné, par exemple, si vous avez des cartes de certaines couleurs qui vont être choisies par un ordinateur, si c'est programmé à l'avance, c'est pas très différent de la clairvoyance, parce que tout ce qui est là dans le futur va arriver. D'une certaine manière, c'est déjà là. Là où c'est plus intéressant, c'est quand l'ordinateur va sélectionner, donc j'appelle ça une précognition fermée. Mais là, c'est lorsque l'ordinateur, parmi un jeu de possibles, va sélectionner après coup la carte. Donc, il y a une prémonition qui est faite, et après coup, il y a un choix. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça nous dit quelque chose sur la nature du temps. Est-ce que le futur est fermé, déterministe? Ça ne permet pas d'y répondre. Est-ce que ça nous permet de voir si effectivement le futur est ouvert? Mais est-ce que l'esprit humain est capable quand même d'aller chercher quelque chose qui n'est pas encore décidé au niveau de la nature? Ce sont des questions essentielles sur le temps. Entre déterminisme et indéterminisme, et ce genre d'exercice nous s'y prête. Par exemple, en remote viewing, on peut effectivement avoir des cibles qui sont ailleurs dans le temps, pas seulement en Union soviétique ou sur une autre planète, mais des choses qui se sont passées à l'époque des Romains ou dans la préhistoire. Mais on peut aussi aller chercher à identifier des choses dans le futur. Mais là, tous les remote viewers disent, enfin, il n'y a pas un consensus sur l'interprétation, mais beaucoup d'entre eux disent, oh là là, on a l'impression que le futur, c'est beaucoup plus compliqué. Comme s'il n'était pas encore complètement là. Comme si on pouvait percevoir des choses qui ont de grandes chances de se produire, mais tant qu'elles ne se sont pas produites, ce n'est pas une certitude absolue. Mais on peut avoir des informations quand même, et elles peuvent être utiles pour prendre des décisions ou pour s'ajuster. Et c'est peut-être à ça que sert cette prémonition, ce pressentiment qui a l'air d'être en chacun de nous, que montre Dean Radin. C'est que si, quelques secondes avant un danger, on le pressent, et bien on peut fuir avant de voir le danger. Hein, on peut se préparer à quelque chose de dangereux. C'est peut-être la raison d'être biologique de ce pressentiment. Et le fait que, par contre, le futur lointain nous soit inaccessible, c'est soit une propriété essentielle de la nature du temps, soit quelque chose qui aussi est important pour que nous puissions nous comporter comme des gens qui, ne sachant pas quel est le futur, eh ben, on a des choix à faire, on a des risques à prendre, plein de choses découlent de ça dans notre vie de tous les jours, du fait que le futur n'est pas connu. Alors tout ça, la science jusqu'à présent nous disait, mais c'est impossible. Pourquoi? Elle nous disait, c'est impossible à cause, je vous ai dit, de la causalité, ça c'est pour la précognition, hein, on ne peut pas voir des choses qui sont dans le futur, c'est impossible, parce qu'aucune information ne peut venir du futur vers le passé, disait la physique. La télépathie, la clairvoyance, impossible. Qu'on puisse avoir des informations sur quelque chose avec quoi on n'est pas en contact sensoriel, parce que aucune information, comme les dominos, n'a pu venir de cette chose jusqu'à nous. Comment pourrait-on percevoir quelque chose? Et vous voyez, par exemple, Einstein, avec la relativité, a un petit peu cristallisé cette idée de causalité, parce que quand il dit que rien ne peut aller plus vite que la lumière, en fait, c'est un peu faux de dire ça. C'est la causalité observée dans la nature qui semble avoir une vitesse maximale. C'est la vitesse de chute des dominos. Il se trouve que la lumière, étant composée de particules qui n'ont pas de masse, va à cette vitesse-là. Mais pareil pour les neutrinos, pour d'autres particules. C'est une vitesse de causalité Elle a beaucoup emprisonné l'esprit des physiciens qui se sont dit, ben, tant que rien de proche en proche, ni particules, ni ondes, ni, comment on appelle ça, le télégraphe, comment on appelle ça, le jeu où on se passe de proche en proche une information. Voilà, le téléphone arabe. Il faut que de proche en proche, comme des dominos, il y ait quelque chose qui soit le médiateur de l'information entre l'objet qui émet l'information, ou la personne, et la personne qui reçoit. Et si on n'a pas ces canaux-là, qui sont des canaux de perception, on ne voit pas comment on peut faire. Ça, c'est ce que disait la physique jusqu'à présent. Alors évidemment, tout ça, c'est hérité d'un postulat matérialiste qui s'est ancré depuis quelques siècles, qui nous dit que, une sorte de bonus à tout ce que je viens de dire, c'est que la réalité, elle est seulement matérielle, que la conscience c'est juste un épiphénomène, c'est un effet collatéral de la matière. Hein, si vous avez un cerveau, une structure très très organisée, très complexe de neurones, vous pouvez éventuellement avoir de la conscience qui émerge. Mais en plus, cette conscience n'a pas vraiment de réalité, parce que, comme disait Pierre Cabanis, c'est un peu comme si le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile. Donc, il y a cette vision que tout vient de la matière et que finalement la conscience est un effet collatéral qui en plus n'a aucun sens, aucune signification. Et voilà. Ça, c'est la vision matérialiste qui s'est vraiment installée chez les physiciens, chez les neurologues, chez beaucoup de gens au cours des siècles. D'ailleurs, soit dit en passant, cette vision-là autorise que des machines puissent avoir de la conscience. Si on pense que le cerveau est juste une machine complète, ben oui, peut-être qu'un jour on aura des intelligences artificielles qui auront une conscience de soi. Peut-être que voilà, ça c'est le paradigme dans lequel sont beaucoup de gens aujourd'hui, en cybernétique, dans des tas de domaines. Et ce sont des questions importantes parce que pour l'instant, le test de Turing, qui est ce test imaginé par le mathématicien Alan Turing dans les années 50 pour savoir reconnaître si en face de soi on a un être humain doué d'une conscience de soi ou une machine qui fait semblant, il y a des systèmes, des intelligences artificielles qui ont l'air de passer le test de Turing. Mais on sait que ce ne sont pas encore des machines conscientes. Mais dans le milieu transhumaniste, on est persuadé que ça va arriver, et plein de gens aimeraient bien remplacer l'être humain dans certaines tâches par un robot. Et j'espère que jamais un thérapeute ne sera un robot qui tiendra par la main, dans sa main de peau synthétique, quelqu'un qui a besoin d'aide en lui faisant croire qu'il y a un être humain qui l'écoute. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais pour l'instant, il y a vraiment un fantasme là-dessus. Et lorsque, par exemple, en 2014, dans Science et Avenir, il y avait un article qui disait « Ça y est, on a enfin inventé la télépathie, la vraie, puisque l'autre télépathie, ce sont des calembredaines. d'Eden. » Alors la télépathie, pour ces gens-là, ben, faut vous brancher des électrodes dans le cerveau, faut envoyer ça dans des câbles, dans des ondes, c'est transmis par ondes radio. Alors il y avait une personne qui était en Inde et l'autre aux États-Unis, je crois. Mais voilà, ça passe par des ondes, c'est de la matière des ondes. Hein. C'est des photons, c'est des particules, c'est des électrons dans des câbles. Ça, c'est la vision de la télépathie chez ces gens-là. Ils sont bien loin, vous voyez, de cette approche dont je vous ai parlé avant. Quand ils parlent de piloter par la pensée des appareils ou des exosquelettes, c'est pareil, c'est avec des squids, enfin des détecteurs électromagnétiques, c'est avec des câbles, c'est avec. Voilà. Et il y a vraiment ce fantasme que même la conscience pourrait être un jour stockée sur un disque dur, qu'on pourra télécharger, c'est un rêve d'immortalité, de matérialiste. Hein. Télécharger la conscience dans un rayon laser, disait Michio Kaku, transmettre par onde radio la conscience qui aurait été enregistrée par comme si la conscience, l'enregistrement par EEG d'une conscience allait être une conscience qui peut se transporter. Enfin bon, je préfère passer vite, mais c'est pour vous montrer à quel point il y a un fossé énorme. Alors évidemment, quand on dit à ces gens-là que oui, piloter par la pensée de machine, mais on sait le faire. Mais même, il n'y a pas besoin d'être un humain, les poussins peuvent le faire. Beaucoup d'êtres sensibles le font. Ça a été montré dans des expériences de parapsychologie dont je n'ai pas le temps de vous parler, mais c'est la psychocinèse, c'est-à-dire le fait que par l'intention, par la pensée, on puisse agir sur certains types de systèmes, surtout quand ce sont des systèmes aléatoires, justement des systèmes qui ne sont pas déterminés à l'avance. Alors les processus quantiques sont aléatoires, donc ils permettent ça. Il y a toute une catégorie d'expériences qui ont pu être rendues possibles en utilisant pardon, des composants quantiques sur laquelle on a l'impression que l'esprit peut prendre prise. Hein. C'est comme si, en fait, ça se comprend un peu. Si le futur est écrit, c'est pas évident de changer. Si vous êtes, si les choses sont sur des rails, c'est pas évident de faire quoi que ce soit. Mais si vous avez des tas de flottements dans le futur, ben c'est plus facile peut-être pour l'esprit, pour l'intention, pour la volonté de venir faire pencher un choix d'un côté plutôt que d'un autre. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais je n'ai pas trop le temps d'en parler. En tout cas, n'importe quel cartésien vous dira que tout ça, c'est du gros n'importe quoi. Et puis, dans les jeux de hasard, d'ailleurs, on voit beaucoup ce genre d'effet aussi de l'intention. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui a dit ça? Notre état intérieur influence la tournure des choses, notamment dans les jeux de hasard. Alors, peut-être pas exactement en ces termes, mais c'est Descartes. Comme quoi, on lui fait dire bien des choses qu'il n'a jamais dites ou jamais pensées. Alors, il y a un changement, ça c'était la vision cartésienne dans laquelle on s'est beaucoup enlisé, mais il y a des choses qui bougent, et notamment depuis un siècle, où il y a vraiment un changement de vision du monde. Alors, un changement de vision du monde, un changement de paradigme, comme disait Thomas Kuhn, le philosophe des sciences, c'est quand il y a plein de choses qui changent à la fois. Souvent, c'est quand on a un nouveau rapport au monde parce qu'on peut le voir autrement. Quand on a inventé le microscope, tout d'un coup, on a découvert que le vivant existait à l'échelle des poussières, que c'était tout un monde de vie qui s'ouvrait. Quand on découvre, grâce à l'astronomie, qu'il y a d'autres galaxies qui contiennent des milliards d'étoiles bien au-delà de la nôtre, tout d'un coup, c'est un changement total de perception du cosmos et de notre lien à cette réalité. On se replace. Comme disait Blaise Pascal, on est coincé entre les deux infinis, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Ça reste vrai. Mais simplement, ça s'étend. Donc, il y a ce changement de regard sur le monde, souvent grâce aux instruments. Mais qu'est-ce que c'est qu'un instrument scientifique, sinon une extension de nos sens? Parce que le microscope et le télescope, ça reste quelque chose qu'au final, on regarde. C'est comme ça nous permet de faire mieux que nos yeux. Un accélérateur de particules, c'est presque quelque chose de kinesthésique. Ça nous permet d'aller toucher la matière à l'échelle des particules élémentaires, alors que nos doigts ne peuvent pas le faire. De toute façon, les moyens d'instrumentation scientifique sont des extensions, des prothèses, j'ai envie de dire, des prothèses augmentées de nos sens. Voilà. Mais ça ne suffit pas à un changement de paradigme. Ça, c'est sensoriel, d'une certaine manière. Hein, c'est le fait que la nature se révèle à nous par les sens d'une autre manière. Il y a aussi des choses qui arrivent de façon intuitive. Et les grands, je parlais de Max Planck, d'Einstein, enfin, tous les grands découvreurs, tout d'un coup, ont une intuition fulgurante, spontanée, immédiate, de quelque chose qui n'est pas accessible par la voie sensorielle et qui les guide dans leurs recherches. Et une chose qui est presque un archétype, c'était la recherche de la particule ultime. Donc, Démocrite disait, un jour, on va tomber sur un atome, hein, une particule insécable, indivisible, de matière. Anaxagore, lui, disait, non, plus on ira dans l'infiniment petit, il n'y aura jamais de fin. En fait, les deux avaient raison, parce que on n'a pas trouvé l'atome, c'est un mirage. Sous la forme, c'est-à-dire que quand on a trouvé les atomes, on a très vite vu qu'ils étaient faits de vide, ils étaient faits d'énergie, qu'à l'intérieur des atomes, il y a des quarks. Et même les quarks sont il y a la théorie des cordes aujourd'hui. Donc, en fait, ce sens d'une matérialité tangible s'est complètement évaporé au fur et à mesure qu'on s'en approchait. Mais ils avaient donc, d'une certaine manière, tous les deux raison. Par contre, quand je dis que Démocrite a raison, c'est que c'est pas l'atome, le vrai atome, c'est pas vraiment la particule de matière, c'est quelque chose d'un petit peu plus abstrait, c'est l'action, qui est un mélange de l'énergie et du temps, et ça, oui, il y a un quantum, il y a une sorte de pixel ultime en dessous duquel on ne peut pas descendre. Et ça, c'est la base de la physique quantique. Quantique, ça vient de quantum, ça vient de ce quantum d'action qu'on appelle la constante de Planck, qui a été découverte par hasard, et aussi de façon un peu intuitive, et qui est à la base de plein de choses. C'est à cause de ça que la matière est stable, c'est à cause de ça que les électrons tournent autour des atomes, c'est à cause de ça que la matière même est ondulatoire, avec toutes les propriétés bizarres de la physique quantique. Donc tout ce côté tangible, il s'est évaporé. Déjà, c'est un sale coup pour les matérialistes, hein, vous l'admettrez. C'est-à-dire que si vous prenez une chaise en bois, si vous zoomez sur le bois, vous trouvez des molécules, si vous zoomez, vous trouvez des atomes, vous trouvez des noyaux, mais finalement, au final, vous avez quoi? Des ondes. Et des ondes de quoi? Ce n'est même pas des ondes de champ, c'est des ondes selon l'interprétation en vigueur, qui date des années 30, ce sont des ondes de densité de présence, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore incarné, quelque chose qui n'est pas totalement là. C'est là et pas là à la fois. Et c'est là lorsqu'on fait une mesure. C'est là quand ça se, quelque chose ou quelqu'un force cette onde de probabilité à se cristalliser quelque part. Hein? Donc l'aspect corpusculaire, c'est quand l'onde est mesurée à un endroit, mais tant que cette mesure ou tant que ce phénomène qui réduit l'onde n'est pas intervenu, la matière, elle est partout, elle est diffuse, elle a un don d'ubiquité, elle fait le passe-muraille, des interférences, parce que c'est comme si on avait un monde de possibles et... la physique quantique nous dit que le futur est ouvert et que chaque atome, chaque électron ne sait pas ce qu'il doit faire, mais il reste dans un état de possible qui se superpose et tout va très bien comme ça. Et c'est complètement contraire à la vision déterministe qu'on avait avant, où les choses étaient dans un état bien particulier. Par exemple, ce téléphone, il est là et il n'est pas ailleurs en même temps. En physique quantique, l'équivalent du téléphone, il peut être là, et puis là, et puis là, et puis en plus, il est distribué, il fait des choses bizarres, il passe à travers les murs. Donc, c'est une coexistence de possibles, un peu comme dans le cubisme, où on vous représente un sujet avec toutes les perspectives à la fois, alors qu'elles devraient s'exclure mutuellement. Et puis, il y a les trajectoires aussi qui devraient s'exclure. C'est-à-dire que pour sortir de la pièce, vous allez choisir un chemin, mais un seul. Une particule quantique... Si elle a plein de façons de sortir de la pièce, elle va toutes les explorer à la fois. Donc ça, c'est ça a des conséquences importantes, même au niveau philosophique, sur la notion de l'unité et de la multitude, mais j'y reviendrai peut-être. L'expérience qui a... Vous avez entendu parler de l'intrication. Donc c'est un phénomène très très important de la physique quantique et tout le monde s'accorde à dire que c'est peut-être la signature même des processus quantiques parce qu'on le retrouve sous différentes formes. L'idée était venue à Einstein en 1927 que quand vous avez une onde de lumière qui passe par une ouverture dans une fente, derrière ça diffracte si la fente est petite. Donc c'est parce que c'est une onde. Mais c'est une onde de quoi? C'est une onde de probabilité que les photons s'y trouvent. Donc si vous avez beaucoup beaucoup de photons, ben, vous avez une tache lumineuse à peu près uniforme qui arrive au même moment sur cet écran sphérique. Mais si vous réduisez la lumière au compte-gouttes, on sait faire ça maintenant avec des lasers, vous avez un photon, puis un photon, puis un photon. Alors le premier photon, peut-être qu'il va arriver là. Hein, peut-être qu'il va arriver là, peut-être qu'il va arriver là. Mais au bout d'un certain temps, vous avez plein de photons qui arrivent et qui redessinent, avec la loi des grands nombres, qui redessinent la distribution globale. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on se pose la question, qu'est-ce qui se passe pour un photon? Mettons qu'il y en ait un qui arrive là. Qu'est-ce qui fait que dans l'onde, il se soit concrétisé là plutôt que là? Autrement dit, est-ce qu'il y a une forme d'information instantanée qui vient, une fois que ce photon décide de se manifester là, qui vient prévenir les autres endroits de l'onde? Ça y est, j'ai fait un choix. Ne vous manifestez pas parce qu'on a le droit qu'à être un seul. Je m'exprime mal, mais vous voyez l'idée. Est-ce qu'il y a une sorte de communication entre différentes régions de l'espace, et c'est forcément une communication instantanée pour permettre à l'onde, qui est quelque chose d'étendu dans l'espace, de se cristalliser en un endroit et pas en plusieurs. Et ça, c'est l'idée qui a été à l'origine de l'intrication, puisque après, c'est devenu le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, où on a dit, bon, bah, on va essayer de faire quelque chose de similaire avec deux photons qui partent de chaque côté. Et lorsqu'on peut faire une mesure sur l'un, est-ce que ça oblige l'autre à s'ajuster parce que les deux particules sont jumelles? Bon, c'est aujourd'hui... quelque chose qui a pris beaucoup d'essor. Il y a eu les premières expériences. Alors, l'idée conceptuelle de l'intrication, c'est 1935, avec le paradoxe EPR. Il a fallu des décennies pour que des physiciens puissent la réaliser en laboratoire. C'est surtout un Français, Alain Aspect, au début des années 80, qui a réussi à le faire, qui mériterait d'avoir le prix Nobel pour ça, d'ailleurs, mais curieusement, il ne l'a jamais eu. Et après, l'expérience a été refaite, complexifié. Depuis les années 90, Il y a tout un tas d'équipes en Autriche, en Suisse, en Chine qui battent record sur record, des distances entre lesquelles on arrive à pas vraiment à faire circuler de l'information, mais à montrer qu'il y a un lien, une corrélation non locale entre un endroit et un autre. Et les Chinois ont fait l'expérience où c'est 1 500 km en utilisant un satellite. Autrement dit, il y a du lien non local. Et ça, c'est en complet désaccord avec tout ce qu'on croyait avant, où pour avoir du lien, il faut qu'il y ait des petits dominos qui, de proche en proche, connectent les particules ou les choses. Alors, dans des expériences quantiques, combien de temps il me reste?
Il est 11h25.
Donc ça va, j'ai encore une demi-heure. Bon. Parce que je préfère pas trop accélérer pour rester clair. Ça, c'est une expérience de physique quantique, comme on en fait de plus en plus maintenant, qui là aussi donne un grand coup de pied dans l'édifice des idées établies sur le temps, sur la causalité. C'est ce qu'on appelle des expériences de causalité rétrograde, de rétrocausalité. Donc ça, déjà, ça pourrait être intéressant pour les gens qui disent, ben, on pense que la prémonition n'est pas une impossibilité. Ce qui se passe dans ces expériences, c'est que vous avez un photon. Alors c'est un laser. Un laser, donc c'est une lumière. C'est une lumière qui est constituée de photons dans un état particulier, qui est émise dans un dispositif optique où il y a une lame séparatrice. Autrement dit, si vous envoyez de la lumière, vous avez la moitié qui passe à travers et la moitié qui est réfléchie à angle droit. Ça, on n'a pas de problème conceptuel quand on manipule de la lumière. On comprend qu'une partie de la lumière, ça part à gauche, ça part à droite. C'est comme quand on se regarde dans un miroir, semi-réfléchissant, on voit son image, on voit ce qu'il y a derrière. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un photon après photon qui, au compte-gouttes, sont émis par le laser? Parce qu'on sait faire ça. C'est-à-dire que le photon, lui, il n'a pas le droit de se couper en deux. Tant qu'il est sous forme d'onde, il le fait, pourtant. C'est-à-dire que tant qu'il est indécis, il est nulle part vraiment, il est dans cet état un peu éthéré, un peu irréel, pas vraiment incarné, oui, il peut se distribuer en 50% à gauche, 50% à droite, toujours dans cet état un peu indécis, jusqu'à ce que derrière, il y a éventuellement un détecteur. Et quand on fait l'expérience de cette manière-là, on voit effectivement le photon arriver à un endroit ou à un autre, mais il respecte les lois de la diffraction, c'est-à-dire il montre qu'il s'est comporté jusqu'au dernier moment comme une onde, capable d'interférer avec elle-même. Hein? Mais lorsqu'on change quelque chose dans l'expérience, on oblige tout d'un coup le photon, dès le départ, à se comporter comme un photon. Autrement dit, de prendre un chemin ou de prendre l'autre. Et là, ce n'est pas du tout le même résultat au niveau des détecteurs. Alors, cette expérience, on sait la faire. On voit les deux types de comportements. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on sait aujourd'hui, avec de l'électronique rapide, choisir la configuration après que la lumière soit déjà partie, après qu'elle soit déjà là-dedans. Autrement dit, on essaye de piéger le photon, on essaye de lui faire croire que on veut de lui qu'il se comporte comme une onde ou comme une particule, mais au dernier moment, ah, je t'ai bien eu, on change les règles du jeu. Et ce qu'on voit, c'est que le photon s'adapte avant, comme s'il avait, alors c'est une vision anthropomorphique, hein, mais c'est comme s'il avait pressenti ce qu'on allait attendre de lui et qu'il s'était adapté dès la sortie du laser. En fait, dès qu'il est là, il sait ce qui va se passer plus tard. Alors, bon, dans les grandes lignes, c'est un peu l'idée. Il y a plusieurs expériences comme ça qui ont été réalisées. Tout ça, c'est possible parce qu'on a des lasers, on sait émettre des photons au compte-gouttes et on a de l'électronique rapide et on a aussi des générateurs aléatoires. Hein, qui sont vraiment du vrai hasard, qui sélectionnent de manière arbitraire une configuration ou une autre. Donc ça fait beaucoup de choses qui, vous voyez, en donnent un coup à la causalité, à l'idée que les signaux doivent se propager d'une certaine manière, et surtout à l'idée qu'il puisse y avoir des liens qui corrèlent des résultats ou qui corrèlent des choses ou des objets par-delà l'espace et même par-delà le temps. Alors, les idées quantiques, bizarrement, les années 30, c'était les années de la théorie. Ah, je me suis déconnecté. J'ai encore besoin d'un câble pour être entendu sur l'enregistreur. Oui, donc, dans les années 30, il y a eu tout le travail théorique et très vite, dans les années 50, vous voyez, à peine 20 ans plus tard, il y avait déjà des applications. Des applications au niveau de la recherche sur l'électronique, les semi-conducteurs, la cybernétique, tout Et toute l'électronique qui en découle, les transistors, avec toute l'électronique à laquelle on est habitué, les lasers, c'est arrivé très vite aussi. Donc 20-30 ans après l'invention de ce nouveau paradigme, il y avait déjà des applications dans la technologie qui sont arrivées très vite dans notre vie de tous les jours, qui l'ont révolutionné. Hein, comme je... Qui possède un smartphone dans la salle? Ah, il y a peut-être quelques personnes. Bon. Voilà, les ordinateurs, les smartphones, tout ce qui fait notre monde d'aujourd'hui, c'est de la physique quantique. Mais elle est dans la boîte, ça ne se voit pas, mais c'est de la physique quantique qui a permis de réaliser ça. Alors que les théoriciens n'étaient pas d'accord sur l'interprétation des données. C'est ça qui est fou. C'est pas vraiment mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est vraiment trouver vite de l'applicatif, alors que sur les fondements philosophiques, qui sont profonds, personne n'était d'accord. Plus récemment, il y a d'autres domaines qui se sont appropriés les idées quantiques, notamment la biologie. C'est arrivé à partir des années 90 et surtout 2000, parce que des moyens de mesure ont permis de mettre en évidence que dans les processus physiologiques, différents processus de biologie en fait, faisaient intervenir des effets quantiques. L'effet Hall, l'effet tunnel, la superposition d'états, tout un tas de choses. Par exemple, la photosynthèse, si elle est aussi efficace, c'est parce qu'elle utilise un procédé quantique et pas classique. Mais ça a été vu que récemment, grâce à des expériences. Et c'est que le début. Mais il y a toute une communauté de biologie qui est en train de se développer. Il y a des colloques, il y a des conférences, qui s'approprient le formalisme qu'avaient développé les physiciens, parce que ça, c'est utile, ils le découvrent, et puis les idées qu'il y a derrière. C'est-à-dire que des choses peuvent prendre plusieurs chemins à la fois, peuvent se superposer sur plusieurs états. Voilà, tout un tas de choses qui nous paraissent bizarres, mais dans notre vie de tous les jours, mais qui vont peut-être venir dans notre vie de tous les jours de plus en plus, parce que la physique quantique aussi fait remonter vers nous les propriétés les plus bizarres. Pour l'instant, là, les téléphones, tout ça, ce qui est bizarre, c'est vraiment à l'échelle microscopique, vous ne le voyez pas. Hein, le transistor, vous pouvez le prendre dans la main. Et le téléphone, on l'utilise d'une manière classique. On appuie sur on, sur off, voilà. Mais bientôt, les concepts bizarres de la physique quantique vont être beaucoup plus proches de nous. Hein, par exemple, l'indétermination, la superposition des possibles, des choses comme ça. Le fait que, par exemple, on développe des ordinateurs quantiques, c'est intéressant parce que ce sont des ordinateurs qui ne travaillent plus sur une logique binaire. On n'est plus dans du 1 et 0, on n'est plus dans du c'est vrai ou c'est faux. C'est plus la logique booléenne. On est beaucoup dans le manichéisme, hein. Mais c'est comme ça ou c'est comme ça. Ben non. En physique quantique, il y a des entre-deux, il y a des zones de gris, il y a des nuances. C'est beaucoup plus subtil. Du coup, il y a des logiciens qui travaillent là-dessus parce que pour utiliser des ordinateurs quantiques, pour les comprendre, il faudra à un moment donné commencer à s'approprier une nouvelle forme de logique qui n'est plus binaire. Ça peut changer en profondeur des choses dans notre façon de vivre le monde et nos relations aussi entre les uns les autres. Ce serait pas mal de sortir du manichéisme. Alors, d'autres implications de cette nouvelle physique qui vont être plus intéressantes, je pense, pour les sujets qui vous intéressent, c'est que déjà, une question très importante de la philosophie, c'était, comme le disait William James, la notion d'unité et de multiples. L'unité, disait William James, c'est quelque chose qui fascine beaucoup, qui a plus que la variété. Mais ce qui est intéressant dans le concept d'unité, et c'est vrai quand il dit ça, par exemple, vous voyez, les physiciens sont tous à la recherche d'une théorie du tout. Hein. Il y a toujours cette recherche de l'unique, du global, du... C'est pas une pensée simple, c'est une sorte de fascination pour le fait qu'il puisse y avoir unification. Mais il disait, ce qui est intéressant dans l'unité, c'est ce qui la constitue. Et ce qui la constitue, c'est les liens, c'est les influences. Et William James disait, tout est constitué d'objets qui sont en lien, qui s'influencent mutuellement. Ce sont des réseaux, différentes sortes de réseaux, de choses interreliées. Sa vision est très juste parce qu'on le découvre de plus en plus. On l'a découvert en physique. Oui, tout est d'abord les forces, les champs de force, les interactions, les ondes. On a découvert qu'effectivement, c'est au cœur de la physique. On devrait plus parler des liens que des objets eux-mêmes, désormais. Les forces, Il y a des particules qui servent de médiateurs entre d'autres particules. Il n'y a que du lien, pour dire les choses simplement. Et puis aussi, la notion d'individu et de collectif se brouille. Il y a plusieurs choses en physique quantique. Il y a l'indiscernabilité qui dit que, par exemple, au niveau quantique, vous ne pouvez pas faire la différence entre un électron et un autre s'ils ont les mêmes paramètres, les mêmes nombres quantiques. Ça n'a plus de sens de dire celui-là, il est là, et celui-là, il est là. C'est comme si vous aviez... il y a beaucoup d'idées qui font penser à la notion d'hologramme. Hein, c'est-à-dire que l'élément... est une incarnation du tout. Le tout est formé de tous les éléments, mais vous ne pouvez plus distinguer les individus les uns des autres, ça n'a plus vraiment de sens. Dans les condensats de Bose-Einstein, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas dire quelle est la différence entre telle et telle particule, parce qu'elles se mettent toutes à fonctionner avec la même fonction d'onde, autrement dit, un peu comme des soldats dans une armée, absolument indistinguables les uns des autres, et fonctionnant ou pas, hein, ce qui provoque des phénomènes très particuliers, des phénomènes collectifs. C'est comme si tout d'un coup vous faisiez surgir une unité collective du groupe qui passe à autre chose. Ce ne sont plus des rassemblements d'individus, je parle des particules, hein. Ce ne sont plus des rassemblements de particules, c'est tout d'un coup un comportement collectif unique qui est extrêmement étonnant. Ça fait un peu penser à des choses qu'on peut observer dans les phénomènes de groupe, hein, d'ailleurs, quand tout d'un coup, il y a une sorte d'attention qui se focalise, et c'est même des choses qu'on peut mesurer dans certaines expériences. Une sorte de résonance collective. Voilà, et quand vous avez par exemple un laser, comme dans l'expérience de tout à l'heure, là, je vous ai dit qu'un laser, c'est de la lumière, ce sont des photons, oui, mais c'est une lumière particulière, parce que tous les photons se mettent à fonctionner... de la même façon, c'est un condensat de photons, un laser. C'est pour ça qu'elle a des propriétés particulières, cette lumière. Donc, la notion d'individu, la notion d'altérité, j'ai envie de dire. Hein, est-ce que je suis moi? Est-ce que tu es l'autre? Est-ce que je suis moi ou est-ce que je fais partie du tout? Est-ce que le tout... Ce sont des notions qui avaient l'air évidentes, mais finalement qui, au niveau de la nature, au niveau du monde physique, deviennent plus complexes. Et même le grand tout, le grand un, l'univers, finalement, maintenant, on parle de multivers, il y a plein de théories de multivers, donc c'est à la fois une totalité et c'est aussi une multitude. Et puis, la notion de réseau dont parle William James, ben oui, on la voit partout, dans plein de domaines, dans plein de sciences, on parle de réseau, d'interconnexion, à toutes les échelles en plus, et même en physique, en gravitation quantique, l'espace-temps pourrait résulter d'un réseau. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans, mais cette notion, elle est omniprésente. D'ailleurs, on voit bien dans tous les mots-clés qui envahissent notre vocabulaire. On parle tout le temps de réseau, de connecté, je suis connecté, d'écosystème, de cloud, d'Internet, etc. C'est vraiment quelque chose qui fait partie maintenant de notre inconscient collectif et peut-être, qui se rapproche d'une intuition profonde qu'on a sur notre vraie nature. Oui, nous sommes un, mais nous sommes aussi interconnectés et nous faisons aussi partie d'un grand tout. Et à travers la technologie, peut-être qu'on réinvente ça. Peut-être pour se réapproprier. Un petit peu comme on imiterait par un long cheminement dans la matière notre véritable nature et des propriétés qu'on a en nous, mais qu'on a un peu oubliées. L'autre chose importante de la physique quantique, c'est la notion de temps ouvert. C'est-à-dire que, oui, le futur est ouvert et à chaque phénomène quantique, la particule ne sait pas ce qui va lui arriver. Elle a un choix de possibilités, mais elle ne se décide qu'au dernier moment. Et il n'y a rien dans la physique qui permet de dire ce qui l'amène à choisir tel ou tel résultat d'une mesure ou à se positionner à tel endroit de l'écran plutôt qu'à tel autre. Donc, c'est très, pardon. C'est très intéressant pour les gens qui réfléchissent à la nature du temps. Et ça donne l'idée que ben, ça donne de la place aussi au libre arbitre, parce que beaucoup de philosophes ont réfléchi à est-ce que le libre arbitre existe? Est-ce qu'on a une illusion de libre arbitre? C'est très lié à notre perception de notre conscience. Si finalement le libre arbitre n'existe pas, nous sommes quoi? Des automates. Des automates, et on croit qu'on prend des décisions, on croit qu'on prend des choix, mais alors en fait tout est programmé à l'avance. Ça veut dire que on est déresponsabilisé par rapport à nos choix. La morale disparaît, l'erreur disparaît, l'apprentissage disparaît. En fait, la raison d'être de nos existences disparaît. Pourtant, on était vraiment dans ce paradigme. La physique quantique nous dit, si, même les particules, elles ont du choix, elles peuvent bifurquer. Donc, pourquoi pas l'être humain ? Et ça nous fait aussi réfléchir d'une manière nouvelle au concept de réalité même, parce que la physique quantique nous dit aussi une chose, elle nous dit, attention, pendant des siècles, on a confondu les phénomènes qui se manifestaient à nous, par les sens, par les instruments, pour la réalité elle-même. Et attention, souvenez-vous que... je ne vais pas dans l'ordre de mes slides, je suis désolé, mais il y a eu une tendance de confondre ce qui est manifesté, ce qui se manifeste à nous, voilà, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, pour la chose elle-même. Et la physique quantique, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtile que ça. Elle dit non, la réalité, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On peut l'approcher par des mesures, on peut l'approcher par des équations, par les mathématiques, mais la vraie réalité derrière, on ne sait pas ce que c'est. Et peut-être qu'on ne le saura jamais. C'est devenu très abstrait, la réalité dans la physique moderne. La théorie des corps, toutes ces choses-là, on ne peut plus en avoir une intuition directe. Ce sont les mathématiques qui la décrivent, mais on ne peut plus se représenter ce que c'est que l'énergie du vide. On peut avoir des métaphores. On peut dire, oui, c'est un océan déchaîné, mais ce n'est qu'une métaphore. Il ne faut pas oublier que... pendant longtemps, on a pris les métaphores pour la réalité. Les métaphores, ce sont vraiment juste des moyens d'essayer de s'approprier des concepts qui sont de plus en plus éloignés de nous, mais que les mathématiques décrivent très bien. Et il y a tout un tas de scientifiques aujourd'hui qui disent d'ailleurs, peut-être que les mathématiques, c'est l'essence même du réel, parce que c'est quand même curieux que nos mathématiques décrivent aussi bien le monde. Alors, ce sont des questions un peu philosophiques, mais un grand nombre de physiciens, dont Roger Penrose, qui vient d'avoir le prix Nobel, hein, font partie de ces physiciens et mathématiciens pensent que les mathématiques, l'univers des mathématiques, ça fait un peu penser au monde platonicien des idées et des formes de Platon et d'Aristote. C'est un peu comme s'il y avait un blueprint de la réalité qui s'exprime très très bien en mathématiques. C'est une vision de mathématicien, mais elle est quand même très partagée. Il y a des gens comme Max Tegmark qui n'hésitent pas à dire « le monde est mathématique, point barre ». Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette démarche, et j'en profite aussi pour vous montrer une citation de Penrose, parce qu'il parle d'intuition lui aussi, ce mathématicien. Il est très connu pour ses travaux sur les trous noirs, entre parenthèses. Et il a aussi, je le mentionne, il a aussi travaillé sur la conscience en tant que théoricien en proposant avec un physiologiste qui s'appelle Stuart Armroth un modèle théorique, très théorique, hein, de comment la conscience pourrait être générée dans le cerveau par des phénomènes quantiques. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on pourra en reparler éventuellement plus tard. En fait, c'est intéressant, il fait partie des chercheurs qui pensent que le problème de la conscience n'a pas de raison d'échapper à la physique. Mais il reste dans une vision qui est matérialiste, dans le sens que lui aussi essaie d'expliquer la conscience par la matière. Simplement, il utilise les phénomènes quantiques. Mais là, il dit, un raisonnement rigoureux est généralement la dernière étape. Avant cela, on doit avancer de nombreuses intuitions, et à ce stade-là, les convictions esthétiques revêtent une importance énorme. Parce qu'il fait partie des gens qui sont très sensibles à la beauté mathématique. De l'univers. Alors, il y a tout un ensemble de gens qui, par des biais différents, arrivent un petit peu à la même idée, c'est de nous dire, attention, la réalité n'est pas ce que nous en percevons. Oui, le monde se manifeste à nous, à notre esprit en tout cas, notre conscience, par le biais des sens, mais la vraie réalité, elle nous est peut-être à jamais inaccessible. Alors, il y a Bernard Espagna, un physicien et un philosophe qui est décédé maintenant, qui appelait ça le réel voilé, hein, avec l'idée que la physique quantique est particulièrement une physique qui nous montre qu'on peut parler de ce qui se manifeste, parce qu'en gros, quand on fait une mesure, eh bien, on questionne le monde et le monde nous répond, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et puis d'autres physiciens ont d'autres façons d'approcher la question, mais il y a cette idée aussi, un peu comme dans Matrix, hein, c'est-à-dire que on est un peu dans peut-être une sorte d'illusion et on oublie que c'est une illusion et que le vrai réel, il est inaccessible. On peut essayer de s'en rapprocher, on peut essayer de le questionner, on peut essayer de le tâtonner, d'essayer d'en avoir une perception par nos sens, mais c'est forcément par le filtre humain. Et imaginons des êtres qui aient d'autres sens que nous, ils auront une autre perception du réel, laquelle on ne sait pas. Voilà, donc ça fait écho à un problème qui est vieux comme le monde, c'est quel est le lien entre la matière et la pensée? Le philosophe Kant distinguait justement lui très bien la chose en soi, c'est-à-dire cette réalité qui est peut-être inaccessible de ce qu'on en perçoit avec nos sens, et qu'il appelle les phénomènes. Et les physiciens ont fini par se prendre au jeu des phénomènes, parce que comme ce sont les phénomènes qu'ils mesurent, qu'ils quantifient, c'est là-dessus qu'ils peuvent essayer d'établir des lois de la nature, des lois mathématiques. Ils ont oublié que ce ne sont que des phénomènes, et que la chose en soi, elle nous échappe. Et puis, beaucoup de philosophes parlent des qualia pour la façon dont les choses se révèlent à nous dans notre esprit, c'est-à-dire que quand on a des perceptions, que ce soit olfactives, que ce soit auditives, que ce soit... Alors, c'est quoi les autres sens? Tactiles... Bon, tout ce qui fait notre monde intérieur, sa seule réalité, c'est dans notre esprit. Hein? C'est ce que notre... Ce sont les images mentales qu'on forme. Autrement dit, s'il y a cette bouteille, moi je l'aperçois d'une certaine manière, je ne sais même pas si vous vous l'apercevriez de la même manière, je ne sais même pas si elle existe d'une certaine manière, mais ce que j'en perçois, la notion de bleu, la forme, la perception que j'ai, le poids quand je la prends, c'est dans mon esprit, ça n'est pas vraiment réel. Donc ça s'appelle les qualia, et finalement notre monde intérieur est fait de qualia. Et cette partie-là de l'expérience humaine, elle a été mise de côté. Les physiciens ne s'en sont pas occupés. Mais ça revient, j'ai envie de dire, par une porte dérobée, parce que justement, la physique quantique nous dit que finalement, ce sont des questions importantes. Par exemple, Wolfgang Pauli, qui était un physicien, qui travaillait, un des pionniers de la physique quantique, a travaillé avec Carl Jung sur d'autres formes de causalité qui pourraient... En fait, notamment des causalités de type synchronistique qui pourraient s'expliquer par le fait que pour lui, derrière le monde physique, il y a autre chose. Et il était partisan de l'idée de ce qu'on appelait le unus mundus, c'est-à-dire que la vraie réalité, elle englobe aussi la conscience, elle n'est pas juste matérielle. Mais il y a un lien entre la conscience et entre le monde intérieur et le monde extérieur. Tout ça forme un tout, cet unus mundus, qui est à la fois mental, enfin spirituel et physique. Et les liens, les articulations entre les deux sont mystérieuses, sont complexes. Certains philosophes comme Spinoza ou comme Leibniz aussi réfléchissaient au parallélisme psychophysique, c'est-à-dire quels sont les liens, les relations entre le monde de l'esprit et le monde de la matière, mais ce sont des questions très anciennes. Mais ce physicien et Carl Jung ont réfléchi de nouveau à ça, parce que Carl Jung était, parce que Pauli était persuadé en tant que physicien que au-delà des faits observés par la physique, il y avait une sorte de physique de l'arrière-fond, il y avait des choses du domaine de l'invisible qui pouvaient expliquer d'autres formes de causalité expliquant les choses. Et ça intéressait Jung, évidemment, à cause de son concept de synchronicité. Alors, certaines personnes peuvent mettre un grand fourre-tout derrière ces idées. Par exemple, on peut dire que, bah oui, ce monde invisible, c'est l'inconscient, les archives akashiques, tout ça. C'est un peu le danger, c'est que la porte est grande ouverte pour de nouvelles idées sur ce qu'est le réel et le lien entre l'esprit et la matière. Mais pour revenir à des choses un peu plus, j'allais dire terre à terre, pas vraiment, mais Niels Bohr, le chef de file de la physique quantique, a clairement dit que la physique quantique, c'est une physique de l'interface, parce qu'elle ne parle que des choses qui se manifestent par le biais de mesures. Et la question, c'est bah, c'est quoi une mesure? Imaginez que vous avez un phénomène quantique que vous mesurez dans la matière, par exemple un électron, un atome qui se désintègre. Bon, vous avez des capteurs. Les capteurs, c'est de la matière. Bon, ils ont détecté une information. Qu'est-ce qu'on en fait de cette information? On l'envoie peut-être sur un écran pour le visualiser, pour l'enregistrer. Mais cet écran ou cet enregistreur, il faut que quelqu'un, à un moment donné, l'étudie. Donc, ça va être une impression rétinienne, ça va aller dans le cerveau, mais tout ça, on est toujours dans la matière. Et beaucoup de gens s'arrêtent là, disent, bon, ben voilà, c'est ça une mesure, il faut que quelqu'un fasse une mesure. Et à la limite, ça pourrait ne pas être un cerveau, mais une intelligence artificielle ou juste un enregistrement, voilà, ça suffit. Pour que le phénomène physique se manifeste. Et certaines personnes disent, non, ça ne suffit pas. Un cerveau, s'il est mort ou s'il est inerte ou si c'est juste de la matière brute, ça n'enregistre pas vraiment le phénomène. Il faut que ce soit un qualia, il faut que ce soit pensé. En gros, il faut que ça arrive à l'esprit. Sinon, à quoi sert un enregistrement? Après tout, ça n'a pas de sens. Et c'est un problème philosophique, mais qui a été l'objet de débats et qui est encore l'objet de débats. Alors, j'entrerai pas trop dans les détails, on n'a pas le temps, mais ça veut simplement dire que la question de la subjectivité, elle est revenue dans le tableau de la description du réel, alors qu'on l'avait évincée pendant plusieurs siècles. On ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas faire l'économie de se demander mais quel rôle joue un observateur conscient dans la réalité, puisque la physique quantique nous dit qu'a priori, on en a besoin à un moment donné pour que les choses se manifestent. On ne peut pas parler de monde manifesté s'il n'y a pas d'esprit dans lequel ça se manifeste, en gros. Et puis, c'est amusant parce qu'il y a des artistes qui ont eu le même genre d'intuition. Je voyais ce tableau au musée Picasso, aux mêmes années que la physique quantique, début des années 30. Et ça s'appelle « Le peintre et son modèle ». Alors, vous voyez ici, vous avez le maître en train de peindre, la toile, vous avez le modèle. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez la toile, vous voyez le modèle, vous voyez le peintre en train de peindre. Vous remarquez quelque chose? En fait, la seule chose qui est réaliste, qui ressemble à un visage, c'est le tableau. Le modèle est traité de façon cubiste, complètement abstrait, on va dire, quantique, j'ai envie de dire. Et le peintre, pareil. Tous deux sont dans notre réalité, mais pour lui, la vraie réalité, c'est le tableau. C'est l'interface. C'est le monde perçu par un esprit. J'ai trouvé ça intéressant. Alors, là où c'est intéressant aussi, c'est le lien qu'on peut faire entre cette notion que l'observateur intervient dans la manifestation des phénomènes. Parce que, bon, le débat des physiciens quantiques, il dure toujours. Il y a toujours ceux qui veulent prétendre que la conscience est inutile dans la description du monde. Il y a ceux qui disent, oh, attention, au contraire, ça peut nous dire que par l'intention, on peut co-créer, on peut agir, on peut influencer. Puisque les phénomènes quantiques aléatoires ont l'air de s'y prêter. Voici une expérience qui est connue comme étant l'expérience des fentes de Young, où tout à l'heure je vous ai parlé d'une onde de lumière qui traversait un écran avec une fente, ça diffracte. Si vous avez deux fentes, bah, chaque fente diffracte. Donc vous avez une nouvelle onde qui passe derrière, une onde qui passe derrière, mais du coup ça fait deux ondes qui, dans leur état ondulatoire, se superposent et ça forme ce qu'on appelle des interférences. C'est-à-dire que si vous mettez un écran derrière, bah, vous avez des zones qui seront lumineuses, des zones sombres, des zones lumineuses qui vont alterner avec un schéma très particulier qui se calcule et qui est typiquement dû au comportement ondulatoire des photons. Si c'était juste des particules, des billes, ça ne marcherait pas. Vous auriez juste deux taches de lumière. Donc c'est une expérience importante, c'est elle qui a permis de montrer le comportement ondulatoire des photons à une époque où il y avait encore un débat. Et puis de la matière en général, parce que le même principe peut s'appliquer à des électrons, à des atomes, à des molécules même, qu'on peut faire diffracter dans des systèmes plus complexes que ça, mais où on voit le comportement ondulatoire derrière. Bref, ce qui est intéressant, c'est que tant que les photons ne sont pas arrivés, ils ont une probabilité d'arriver quelque part. Et je vous ai dit, avec la loi des grands nombres, si on en mettait beaucoup, beaucoup, on aurait une certaine distribution statistique. Pas une gaussienne, mais une figure d'interférence un peu plus complexe, mais on sait très bien la calculer. Alors, Dean Radin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a fait une expérience que je trouve remarquable. Il a demandé à des gens de se concentrer, notamment à un groupe de personnes ayant la pratique de la méditation, des moines bouddhistes, et puis de personnes sans pratique particulière. Et il leur a demandé de visualiser intensément, par la pensée, cette expérience, de se positionner par la pensée à l'intérieur de cette expérience. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans cette expérience, selon la façon, un petit peu comme tout à l'heure, selon la manière dont on la configure, le comportement du photon et des ondes change un peu. C'est-à-dire que si vous mettez un capteur pour essayer vraiment de savoir par où passe le photon, vous essayez de le prendre au piège, hein, de dire non, tu ne passes pas par les deux endroits à la fois, je veux savoir vraiment par où tu passes, donc vous mettez des caméras. Là, vous avez effectivement un photon qui sagement passe par l'un ou par l'autre. Mais si vous arrêtez de faire ça, vous retrouvez le comportement ondulatoire. Ben, en quelque sorte, par l'intention, on a l'impression que les personnes qui se sont prêtées à l'expérience ont joué le rôle de capteur, mais par la pensée, parce que les résultats ont changé. Les figures d'interférence, le contraste des figures d'interférence a été modifié au cours de l'expérience, et particulièrement par les bouddhistes, les personnes pratiquant la méditation. Beaucoup d'expériences, c'est pas la seule expérience de ce genre, hein, mais celle-là est très intéressante, je trouve, elle est très significative, parce qu'elle montre assez bien, il me semble, que le lien entre les études de parapsychologie et de la physique, qui les unes se sont posées la question ben, quel est le rôle de l'observateur dans la matière, et est-ce que l'observateur joue un rôle, et d'autres gens qui, pour d'autres problématiques, se sont dit est-ce que l'observateur, est-ce que l'esprit peut influencer influencer les choses. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit tout à l'heure, très brièvement, un grand nombre d'expériences aujourd'hui utilisent des composants quantiques, hein, pour faire des systèmes qui peuvent se piloter par la pensée. Voilà, donc pour résumer, ce nouveau paradigme, ben, il nous dit que, sur le fond de la physique déjà, que la réalité physique, elle est illusive, que la matérialité tangible, eh ben, on peut toujours courir après, que l'univers est fondamentalement indéterministe, donc le futur est ouvert. Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais généralement, ce ne sont pas les gens qui viennent de la physique quantique, mais les gens qui viennent plutôt de la relativité, qui est un héritage d'Einstein, où on nous dit que le temps est une quatrième dimension et que donc, finalement, pas très différente des autres dimensions de longueur, et que les choses sont écrites à l'avance, que tout l'univers, toute l'histoire de l'univers est un grand tout qui est donné dès le départ. C'est une vision, mais beaucoup de faits en science donnent tort à cette vision. L'univers holistique, finalement, comme disait William James, est constitué d'innombrables liens. Le lien est quelque chose de fondamental, la relation entre les choses, entre les êtres, que des interactions non locales existent. Oui, il y a des interactions avec des médiateurs qui s'inscrivent dans la causalité, mais il y a d'autres formes de liens qui, eux, sont acausales dans le sens qu'ils sont instantanés, voire il peut y avoir des interactions rétrogrades par rapport au temps. Donc, des formes de causalité nouvelles. Et que elles disent aussi que ben, la conscience, on est obligé au moins d'en parler. On n'est pas forcément d'accord sur son rôle, mais on est obligé d'en parler. On ne peut plus faire comme si le monde était un monde objectif qui pourrait exister sans nous. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. On est peut-être obligé de prendre en compte les êtres sensibles qui l'habitent, au sens large, hein, c'est-à-dire que la notion de monde intérieur, la notion de d'esprit prend un rôle. On pourra en reparler cet après-midi de ça, parce que c'est important. Et cette conscience, elle semble indissociable de la réalité qui se manifeste. Et sur le front des expériences en parapsychologie, donc, l'être peut percevoir, consciemment ou inconsciemment, des informations sans être limité par la causalité, ni devoir passer par nos sens physiques. Donc, dans des expériences comme ce que vous faites en psychophanie ou dans d'autres domaines où on a des informations qui arrivent alors qu'on a l'impression que ça ne passe pas par la voie sensorielle, ou que des informations ont l'air d'arriver, on ne sait pas comment, comme dans certaines intuitions, eh bien, il peut y avoir effectivement, ça ne devrait pas être interdit au sens où, on pourrait en reparler de ça cet après-midi si vous voulez, mais il y a des choses dans le monde de la physique qui commencent à ouvrir une porte à ces phénomènes. Et surtout, ce que ça nous dit, ces expériences, c'est que la conscience, elle est nulle part. Elle n'est pas dans notre tête. Ça, c'est une vision qui est à jeter, absolument. La conscience est non locale, elle est nulle part. Autrement dit, elle est potentiellement partout. elle n'est pas de même nature que la matière, l'énergie ou l'espace-temps, comme on a essayé de le croire pendant longtemps, ce qui était une hypothèse tout à fait explorable. Et puis, oui, le fait qu'il soit nulle part, ben, ça explique tous les phénomènes de perception extrasensorielle. Si on est capable donc de se connecter à ces informations qui nous arrivent d'ailleurs, ou quand je dis d'ailleurs, c'est d'autres endroits, mais ça peut être d'autres temporalités aussi. Et puis, il influence la matière, à la fois de façon causale, mais aussi de façon incausale. Et point aussi qui est important, souvent de façon inconsciente, dans les expériences qui sont montrées. C'est-à-dire que oui, on peut faire des expériences où consciemment on essaye d'influencer un mécanisme, et ça marche, il y a des expériences, mais on montre aussi que inconsciemment, on a énormément d'influence sur notre environnement, que ce soit des appareils électroniques ou toutes sortes de choses, et ça ouvre la voie à beaucoup d'interprétations de phénomènes comme ce qu'on appelle la bio-PK, c'est-à-dire influence sur le vivant, donc avec des possibilités d'explication de nombreux phénomènes que pas bien compris, comme l'auto-guérison, l'effet placebo, les gens qui ont les mains vertes, enfin des tas de choses comme ça, la magie blanche, enfin tout un tas de phénomènes qui sont rejetés par les courants mainstream, en fait, qui pourraient trouver une explication, parce que dans le vivant, je l'ai dit, il y a plein de biologie qui est quantique, et les phénomènes quantiques sont influençables par l'esprit. Donc on puisse s'influencer au niveau cellulaire, ou au niveau moléculaire, ou de toutes sortes de choses par l'intention, n'est plus quelque chose à exclure. Et une autre idée, c'est qu'il semble qu'en fait le cerveau, au lieu d'être, comme disait Pierre Cabanis, une sécrétion d'un organe, c'est plutôt peut-être le cerveau qui reçoit et filtre une réalité mentale, qui est beaucoup plus vaste d'ailleurs que ce qu'on... qui ne se limite pas d'ailleurs à la conscience, hein, et qui pourrait, en quelque sorte... Ça aussi, ça explique beaucoup de choses mal comprises, hein. Pas seulement les capacités d'accueillir de l'information, mais des gens qui ont des capacités mentales ou intellectuelles qui sont tout simplement inexplicables. Parce que la réalité mentale, en fait, serait beaucoup plus vaste et le cerveau serait là, en quelque sorte, pour en gérer une partie et nous aider à être opérationnel dans cette vie. Alors, il y a quelqu'un qui a défendu un peu cette idée, c'est John Eccles, prix Nobel de physiologie, de médecine, qui est un spécialiste des synapses, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel, et qui, a dit ça, « Je pense que le cerveau est le genre de machine qu'une volonté pourrait piloter. » Tout son travail s'orientait sur l'idée que, oui, l'esprit est nulle part, mais il s'enracine, il s'accroche à la matière, il s'accroche entre autres à ce que nous sommes, et par quel biais, et ça ressemble beaucoup à des expériences récentes justement en psychocinèse, par le biais de l'intention et par le biais du fait qu'il y a certainement des phénomènes quantiques dans le cerveau. C'est une hypothèse. Voilà, donc vous voyez, c'est un changement de vision du monde qui est en gestation, qui est loin d'être achevé. Ce qu'on peut dire, c'est que, comme disait Eric Berne dans l'article que je citais tout à l'heure, on a tous intérêt à développer ces capacités intuitives, d'une part, parce que ça nous aide à être plus efficaces et à mieux gérer notre vie à travers les informations qu'on peut obtenir de cette façon-là. Mais aussi, ça nous aide à comprendre la vraie nature de la réalité et de l'être en explorant ces aspects-là. Et je crois aussi que ça, c'est un moyen de développer notre faculté de lien les uns aux autres, d'empathie, qui finalement a l'air d'être présent d'une manière ou d'une... Enfin, a l'air d'être quelque chose qui, j'ai envie de dire, qui code la plupart des phénomènes dans l'univers, et on n'y fait pas exception. On est tous en lien, on est tous reliés. C'est pas New Age de dire ça, c'est juste réel. Et la psychophanie, en tant qu'outil de connaissance, ben oui, parce que finalement, toutes les méthodologies qui recourent à une forme ou une autre de perception extrasensorielle, c'en est une. On peut supposer que c'en est une, en tout cas. Pour obtenir de l'information, bah, ça nous renseigne sur le fonctionnement de l'esprit humain et sur la nature de la réalité. Le remote viewing nous apprend beaucoup. La pratique du remote viewing nous apprend beaucoup de choses sur le réel et la façon dont l'esprit, justement, est non local, peut explorer certaines choses mieux que d'autres et comment il s'y prend. Ça nous aide à questionner des questions très fondamentales sur la nature du temps, sur la causalité, etc. Donc tout est bon à prendre et c'est une méthode parmi d'autres qui pourrait être utilisée, notamment pour explorer si je disais pour sonder au-delà du visible, du sensoriel et de l'altérité entre les êtres. Un des intérêts que je vois à la psychophanie, c'est contrairement à d'autres méthodes, elle permet de verbaliser des choses qui semblent issues de personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, soit parce qu'elles ne peuvent pas physiquement, soit parce qu'elles ont des blocages, soit parce que de constitution, la parole, c'est pas quelque chose c'est pas un don qu'elles possèdent. Je pense aux animaux, je pense pourquoi pas au règne végétal. On peut tout imaginer. En tout cas, ça pourrait être un moyen de sonder dans le vivant la capacité d'être sensible à exprimer des choses si on suppose qu'effectivement la conscience ne se limite pas à un réseau de neurones. Et écoutez, je crois que ça va être ma conclusion. Voilà, je vous remercie.